affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, il sera question de chimie. Nous avons en effet le plaisir de recevoir dans nos studios Clément Sanchez. Clément Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et lauréat du prix François Sommer Hommes et Nature 2014 pour l'ensemble de votre œuvre. Il est vrai que votre œuvre est des plus originales puisque vos travaux vise, je parle sous votre contrôle, à l'élaboration bio-inspirée de matériaux hybrides et structures hiérarchiques. C'est-à-dire, pour l'exprimer plus simplement, que vous visez à la création de nouveaux matériaux hybrides en s'inspirant de ceux présents dans la nature, comme par exemple les coquillages, les carapaces de crustacés ou les os. C'est dire que vos recherches ont vocation à trouver des applications pratiques dans notre vie de tous les jours, si bien qu'elles ont d'ailleurs donné lieu au dépôt de, je crois, de plus de 50 brevets, dont une grande partie a trouvé une application commerciale. C'est dire aussi que ces recherches, au-delà de leurs applications pratiques, ont aussi des implications sociétales, voire même philosophiques. En effet, votre approche de la chimie, que l'on peut appeler chimie douce, permet de créer des matériaux non seulement plus performants que ceux utilisés précédemment, mais non polluants, autoréparables et biodégradable. Enfin, de façon un petit peu plus profonde encore, elle semble révéler, si je ne me trompe pas, un nouveau rapport de l'homme à la nature, puisque dans cette approche, il n'est plus tant question de prendre la nature que d'apprendre d'elle. Est-ce bien cela ?
Oui.
Alors professeur, pour nous éclairer davantage, car lorsque nous lisons « Élaboration bio-inspirée de matériaux hybrides et structures hiérarchiques », pourriez-vous nous brosser un large portrait de ce qui constitue vos recherches et vos occupations.
Oui, donc mon champ d'investigation, mon champ de recherche est celui de la science des matériaux, tout d'abord. Et plus particulièrement, je suis chimiste, donc. Alors, la science des matériaux, il faut comprendre que c'est une science qui nous permet finalement d'élaborer tous les objets qui font partie de notre quotidien et de notre environnement, nos vêtements inclus. Mais c'est une science dans laquelle, au cœur de cette science, en fait, il y a la chimie, puisque la chimie, c'est la construction, c'est à la fois l'architecture et la maçonnerie, en fait, des objets de notre quotidien, mais également, c'est une science qui doit s'interfacer très fortement avec d'autres disciplines, comme la physique, à travers, je dirais, les méthodes modernes et de plus en plus performantes de caractérisation, de compréhension, finalement, des structures et des fonctionnalités des matériaux que l'on développe. Également une interface de plus en plus marquée vers la biologie, à la fois vers la biologie et la médecine, je dirais, une interface vers l'appliqué, mais également vers les concepts. Derrière le biomimétisme et la bio-inspiration se cache un certain nombre de concepts. Concept et ce que l'on essaye de développer, c'est le décodage finalement des analogies, décoder les analogies dans les modes de construction de certains objets naturels, de certains matériaux de la nature et des modes justement de construction que les chimistes modernes utilisent de plus en plus dans leur quotidien. Alors la dernière interface que je dois signaler et qui concerne en fait la science des matériaux, c'est l'interface forte également avec l'ingénierie, puisque un matériau, c'est également issu d'un couplage entre un processus chimique et un procédé d'élaboration. Un matériau, c'est cela, ce n'est pas simplement qu'une association, finalement, de briques de construction chimique. Alors, si on revient sur le thème matériaux hybrides et structures hiérarchiques, les concepts qui sont développés pour construire des matériaux hybrides au sens hybride organique et minéral ou biologique et minéral, bon, il y a déjà un premier point, c'est que vous ne pouvez pas marier et créer une mixité intéressante entre des composantes qui sont relativement antagonistes, comme je dirais les verres ou les cailloux. qui ont des propriétés mécaniques et de la transparence et un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. Et puis, toutes les molécules ou biomolécules qui appartiennent au monde organique et au monde naturel, qui, elles, ont également de nombreuses fonctionnalités, telles que la flexibilité, la couleur et d'autres, mais qui sont fragiles thermiquement. Donc, arriver à les compatibiliser, il est évident que si vous cassez un cristal et vous découpez une feuille en morceaux, arriver à créer un matériau avec des fonctionnalités intéressantes à partir de ces deux entités-là, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez essayer de chauffer pour augmenter pour améliorer la diffusion des atomes, mais globalement, finalement,
le papier va brûler, ça s'arrête là.
Alors donc, cette chimie, justement, la chimie douce qui avait été justement développée par Jacques Livage. Cette chimie douce, finalement, permet, en fait, indépendamment des qualités de procédé qu'elle apporte, du fait qu'elle peut se faire à des températures raisonnables, je dirais, autour de la température ambiante, elle permet de compatibiliser des composantes fragiles et des composantes minérales. Et le deuxième point, c'est que comme c'est une approche, je dirais, ascendante, c'est-à-dire qu'au lieu de découper en fait des objets d'une certaine taille pour les rendre plus petits et pouvoir les homogénéiser, on part de molécules, eh bien, ça permet une compatibilisation relativement facile des composantes organiques et des composantes organiques ou biologiques, je dirais, et des composantes minérales.
C'est-à-dire que vous partez de l'infiniment petit dans chacune des deux composantes pour ensuite les hybrider.
Et c'est comme cela, de toute façon, que se construisent également les objets naturels, en fait. En général, la nature ne fait pas du découpage, ou très, très rarement, de très gros objets. Donc, au niveau énergétique, c'est toujours plus facile de partir du petit vers le grand. L'exemple que j'aime bien raconter un petit peu aux enfants, c'est que si l'on veut compatibiliser des composantes qui sont antagonistes, il faut démarrer petit. Imaginez un chien et un chat qui, a priori, sont soi-disant antagonistes, sauf si vous démarrez très très petit l'éducation. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est un petit peu la même chose avec les molécules.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisations obtenues en hybridant deux composants aux propriétés intéressantes, justement?
Oui. Il y a un certain nombre par exemple les composites, vous connaissez très bien les qualités mécaniques des plastiques, par exemple des polymères, et puis les qualités mécaniques, la dureté, la transparence, mais aussi la fragilité des verres. Et aujourd'hui, grâce à ces modes de synthèse hybride, on peut créer des matériaux qui ont des propriétés mécaniques et de la transparence de façon continue, pratiquement entre le verre et le polymère. Donc après, ça veut dire que ce sont des propriétés, très intéressantes, puisqu'on peut utiliser ces matériaux, les déposer sur des substrats souples, tout en récupérant finalement les fonctionnalités des deux composantes. Donc ça, il y a déjà un nombre assez conséquent de systèmes qui ont été développés par en particulier des collègues allemands dans le domaine de la microélectronique, de la micro-optique et également de tout ce qui concerne en fait les circuits imprimés également pour les ordinateurs, etc. Donc ça, c'est un exemple.
En réalité, les domaines d'application, comme l'hybridation, par définition, les matières premières sont quasiment infinies, j'imagine. Les capacités de les mixer de façon différente sont elles-mêmes infinies. Et donc, j'imagine que les domaines d'application potentiels sont extrêmement vastes.
Oui, aujourd'hui, des hybrides ou des nanocomposites organo, biologiques et minérales. Si je fais un panorama très très rapide des domaines d'application dans lesquels on retrouve ces matériaux, je dirais que je commencerai par tout ce qui concerne l'isolement des bâtiments, les isolations qui sont des isolants thermiques mais qui restent transparents, les isolations d'un grand nombre de conduites industrielles, un certain nombre d'articles de sport également sont déjà des systèmes à base de nanocomposites organominéraux.
Lesquels?
Des systèmes par exemple de protection du froid, pour les sportifs de haute montagne, par exemple. Il y a également j'ai vu également des systèmes composites qui étaient développés soit dans les balles de tennis pour justement garder
leur souplesse
tout en conservant au mieux l'étanchéité finalement de la balle. Bon, ça c'est justement une petite anecdote. Sinon, au niveau de, il y a pas mal de matériaux dans l'emballage. Sinon, il y a dans l'automobile et dans l'allègement automobile, il y a énormément de composites organominéraux qui sont faits également à base. Bon, donc là, les parties minérales sont des parties qui sont très peu coûteuses. Hein, ce sont typiquement des argiles. Il y a également des...
Et la partie organique ?
Les parties organiques, ce sont des polymères, je dirais, relativement conventionnels, qui sont déjà utilisés depuis de nombreuses années.
Et ça permet donc d'obtenir un matériau qui a...
Propriété mécanique, une propriété de mise en forme, avec beaucoup plus de légèreté. Et donc, également, ça peut être intéressant au niveau de la sécurité. La légèreté, évidemment, c'est associé à une consommation... moindre, etc. Sinon, il y a dans les revêtements fonctionnels, par exemple, des systèmes anti-salissure, anti-rayure, auto-nettoyants. Il y a un grand nombre de matériaux qui sont développés sur ces concepts-là. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui commence à naître fortement, en fait, au niveau des matériaux hybrides, donc pour les cellules solaires, le photovoltaïque, les membranes pour les piles à combustible, ce sont quelques exemples. Dans le domaine également de l'environnement, donc on trouve déjà un certain nombre de capteurs hybrides, de catalyseurs hybrides également, donc ça permet de faire de l'économie d'atomes, d'avoir des réactions qui sont beaucoup plus sélectives, souvent qui peuvent opérer à des températures plus basses. Et pour terminer, il y a également, évidemment, les membranes dans le domaine de l'environnement, ce sont également... Alors, je voudrais insister sur un point important, c'est qu'en fait, l'hybridation peut être utilisée au niveau du procédé pour mettre en forme et pour créer finalement une structure particulièrement efficace du matériau, mais in fine, certains matériaux sont hybrides uniquement pendant la fabrication. Et à l'arrivée, eh bien, si on a besoin d'un matériau qui tienne à haute température, eh bien, ça sera plutôt un matériau minéral.
C'est-à-dire qu'on utiliserait le biologique dans le procédé.
Ou l'organique, oui.
Dans le procédé, comme une sorte d'échafaudage ou de
voilà.
moule.
Voilà, exactement.
D'exosquelette, je ne sais pas comment le définir.
Oui, d'échafaudage, oui.
D'échafaudage, et à l'issue du processus, voilà. On enlève l'échafaudage,
donc,
mais l'objet est là.
Il y a un certain nombre de matériaux. Bon, ce sont donc des hybrides transitoires. Et il y a également énormément de systèmes qui restent hybrides, finalement, jusqu'à leur application. Alors, dans le domaine des biomatériaux, de la médecine également, il y a de plus en plus de développement autour des matériaux hybrides. Je dirais
vous
que...
Vous en donnez un exemple ?
Oui, un exemple qui est dans de nombreuses bouches, je dirais, c'est tous les ciments, finalement, les ciments dentaires, qui présentent en fait des propriétés mécaniques bien meilleures, des propriétés de remplissage et moins de toxicité parce que ça ne relargue pas des monomères. Donc ça, c'est déjà depuis une grande dizaine d'années, c'est déjà utilisé. Il y a également des systèmes de prothèses auditives qui sont recouverts de films hybrides antibactériens. Donc ça, c'est déjà commercial depuis un certain nombre d'années. Et puis, il y a tout le domaine qui est en cours de développement, qui concerne la nanomédecine. Et donc là, on trouve des systèmes hybrides, soit comme agent de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique nucléaire ou d'autres, et également des systèmes hybrides qui sont encore au niveau des tiroirs de laboratoires de recherche, qui sont ces fameux vecteurs thérapeutiques multifonctionnels qui cibleront des tumeurs, qui relargueront de façon contrôlée un médicament, après avoir imagé la tumeur. Et puis, une fois que la tumeur sera imagée, eh bien, on pourra solliciter par une excitation externe l'objet en question et traiter thermiquement la tumeur. Au plus près, localiser avec une efficacité, avec pas de perte, minimisant les pertes sur le parcours, etc. Donc tout ça, je ne dis pas que c'est actuellement commercialement développé, mais c'est déjà dans les tiroirs et il y a un grand nombre d'équipes dans le monde qui se battent justement pour
permettre d'éliminer la tumeur sans abîmer les tissus.
Absolument,
proches.
Oui, oui. oui, en travaillant de façon...
Changerait la donne.
Et oui, ça changerait la donne, et je pense que c'est un pari qui est très très important pour l'humanité.
Il y a une part de rêve dont je vois d'ailleurs vos yeux qui brillent et qui s'animent lorsque vous parlez de ce type de recherche. Est-ce que finalement, cette nouvelle approche de la recherche, de la science et surtout de la chimie, n'est pas de nature à votre avis, à réconcilier un petit peu l'opinion publique et les gens avec ce domaine qui, plus qu'auparavant, suscite aujourd'hui davantage de craintes, disons.
Oui, il est vrai que, bon, c'est vrai que je suis passionné par mon métier, parce que si le grand public savait que finalement le chimiste, c'est... Il y a un côté qui est très ludique dans la chimie, puisque le chimiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un architecte de la matière, et un chimiste rêve en fait de la construction de ses édifices et construit finalement des édifices qui sont plus ou moins complexes, un petit peu comme un Lego.
Et un Lego dont on remplacerait les pièces par des molécules. En fait.
Voilà, exactement. C'est un Lego moléculaire ou un Lego, je dirais, supramoléculaire, selon la taille des pièces que l'on utilise et les modes de connexion en fait, que l'on utilise, hein, comme dans un mécano, on peut visser, on peut agrafer, on peut faire un certain nombre de choses, voilà. Et donc ça, et toutes ces variations de mode, ce sont finalement les variations de la liaison chimique. Oui, je pense que déjà, si le public avait cette information, je pense qu'il y aurait déjà une certaine réconciliation, je dirais, avec le monde de la chimie, parce que c'est vrai que très souvent, en fait, on peint la chimie comme une source de pollution, une source à problème, sur un certain nombre d'exemples, qui ont été souvent des exemples créé en fait par la vitesse, c'est-à-dire que et le profit quoi, et donc on confond souvent vitesse et précipitation, et donc on arrive finalement à des aberrations. Mais globalement, si on enlevait la chimie là dans la seconde là, eh bien nous n'aurions plus rien,
micro,
nous
plus
serions
radio, plus
sur
chaise.
Le sol nu et nous n'aurions plus rien. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte que la chimie est partout et qu'elle fait partie de votre confort, de la santé, de tous les avantages. Et c'est vrai qu'par moment, il y a eu des choses, il y a eu des risques. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas cacher, mais il ne faut pas non plus les monter en épingle. Et je pense que c'est un problème aussi d'information vers le grand public. Et ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, les sociétés, telles quelles qu'elles soient, ont besoin à la fois de jeux du cirque et de sorcières. Et comme les sorcières, certaines s'épuisent, bon, on en trouve d'autres. Et puis la chimie, c'est celle que l'on aime bien sortir du chapeau de temps en temps, quand on n'a rien d'autre sous la main.
Oui, il devrait expier des crimes d'une humanité ou d'un progrès qui parfois effraye. Est-ce que plus largement, ce n'est pas ça qui s'est emparé de nos sociétés ? Une sorte de désenchantement par rapport au progrès qui devait transformer nos existences, mais qu'il l'a transformé.
Oui, le progrès a transformé nos existences, mais ce qui limite finalement une utilisation à bon escient des progrès, je pense que c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la notion de vitesse, la notion de temps. Et le temps, en fait, a des valeurs totalement différentes, et je pense qu'il faudrait faire une grande réflexion, et sans doute certains de mes collègues l'ont déjà faite, sur la valeur du temps, qui n'est pas du tout la même pour nos sociétés. On est dans une société où on ne peut pas comparer le temps d'un ordinateur, le temps que l'on met à construire le cerveau d'un enfant, le temps que met la nature à réparer finalement des systèmes, le temps de la politique, qui est le temps également du clic financier. Et donc, vous voyez, tous ces temps-là sont des temps qui sont totalement en opposition. Et si on veut revenir à une véritable harmonie, eh ben, il faudra quand même se caler un jour sur des temps qui sont, entre guillemets, plus humains, tout en tirant avantage des développements technologiques qui nous permettent finalement d'avoir, un certain nombre de facilités et de commodités.
C'est l'observation de la nature et de sa patience qui vous a conduit à ce type de réflexion ?
Non, c'est peut-être l'observation de l'être humain, tout simplement. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde la nature, on voit que les temps de la nature sont considérables par rapport à notre passage. Nous ne sommes peut-être qu'un pic de Dirac sur la cartographie de la nature, hein. Et je vous prends un exemple très simple. je vais prendre l'exemple du byssus de la moule, qui est un système qui s'autorépare. Vous savez, c'est ce qui permet à la moule de s'accrocher sur les rochers. Alors évidemment, la moule, elle subit finalement les marées et puis un certain nombre de phénomènes naturels qui la forcent un petit peu à essayer de se décrocher. Donc en fait, ce byssus peut se casser, quoi, se briser. Mais il est autoréparable, heureusement pour elle, donc. Dans certains cas, elle peut l'autoréparer. En général, les études qui ont été faites par des collègues scientifiques montrent que l'autoréparation dans les conditions douces de l'eau de mer, avec les ingrédients qu'il faut, eh bien, c'est de l'ordre de 2 à 3 semaines. À température ambiante, donc l'homme, lorsqu'il veut réparer quelque chose, même bon, lorsqu'on a une brisure ou une fracture d'un os, et bien évidemment, vous savez tous que la réparation est également longue. Mais si on traduit cela maintenant en termes de demande pour réparer un matériau, de demande industrielle, et bien il faut que les réparations se fassent dans des temps relativement plus courts.
Et donc, c'est possible ?
Oui, en fait, c'est possible à partir du moment où... oui, on peut toujours activer les systèmes par de la lumière, par un tout petit peu de température. Au lieu d'être à 10-12 degrés, comme dans l'eau de mer, on peut être à 80-90 degrés. Et à ce moment-là, on peut réparer en quelques heures. Donc c'est possible, mais ce n'est pas toujours facile.
Vous pouvez nous parler de quelques exemples d'objets ou de matériaux auto-réparables ?
Oui. Alors justement, donc là c'est un sujet qui démarre depuis un petit peu plus d'un an dans l'équipe. Donc on s'intéresse un petit peu à la construction un petit peu mais raisonnée de matériaux autoréparables avec un certain nombre de collègues dont Laurence Rosès qui est professeur dans l'équipe que j'anime. Et donc en fait l'idée de base en fait c'est justement de construire des matériaux hybrides qui présente un certain caractère d'autoréparabilité. Pardon. Et donc, si on regarde, on revient sur le byssus de moule, en fait, ce que l'on voit, c'est que les composantes principales ce sont des filaments de collagène, des systèmes qui sont assez élastomériques, enfin de l'élastique, en fait, qui, bon, intrinsèquement ne tiendraient pas mécaniquement, mais ils sont associés à des endroits qui permettent de réticuler, des nodules qui permettent de donner une certaine rigidité à l'ensemble. Et ces nodules, eux-mêmes, sont connectés par des interfaces qui sont dynamiques. Ce sont des réactions, je dirais, chimiques d'association. Et ces nœuds d'association présentent énormément de mobilité. Et donc, on a essayé de faire un travail un petit peu en se basant sur ces concepts, où on a justement utilisé, en fait, des polymères élastomères assez classiques, des nœuds de réticulation construits sur mesure, avec justement ces interfaces qui sont dynamiques. Et donc, on a des résultats qui sont encourageants. Je dirais que ce n'est pas des résultats qui vont révolutionner la planète aujourd'hui, mais si l'on coupe un morceau de ce matériau en deux et qu'on le recolle, eh bien, on récupère finalement les qualités mécaniques de cette gomme en quelques semaines, deux semaines, je pense, à température ambiante.
Si on recolle, c'est-à-dire que si on le joint...
On rejoint les deux bouts, on coupe avec un cutter, on rejoint les deux bouts, et en quelques semaines à température ambiante, on récupère et sinon, c'est 2 heures à 90 degrés, c'est la question que vous me posiez. Si on veut accélérer un petit peu, et bien simplement, on accélère la dynamique à la fois du côté de l'élastomère et puis de cette interface qui se reconstruit.
La chaleur, c'est ça ?
Oui, en fait.
Je simplifie.
Non, c'est simplement que les molécules bougent plus lorsque l'on chauffe et donc on accélère le processus.
Et on retrouve ensuite donc ce matériau, même sans cicatrice, il reprend toutes ses propriétés initiales.
Aujourd'hui, on en est à 80% de ses propriétés mécaniques initiales. Donc c'est déjà bien, mais bon, ce sont également des modèles. Hein. Il est évident que si l'on a vraiment des idées beaucoup plus appliquées en tête, il va falloir s'orienter avec ces mêmes concepts, mais vers d'autres types de matériaux. Et ça fera partie du choix des composantes. Du choix des composantes dans la boîte à outils du chimiste, des pièces de Lego. Mais globalement, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'arriver à décoder les aspects mécanismes, les mécanismes de construction des matériaux, les concepts qui sont utilisés. À partir du moment où vous avez à peu près compris un certain nombre de choses, vous pouvez les retranscrire, de façon plus intéressante.
Donc là, nous parlons de recherche fondamentale. J'imagine que ce type de recherche doit quand même considérablement intéresser aussi les industriels. L'éventail de travaux que vous menez, quelle est la part de recherche fondamentale spontanée
Aujourd'hui, c'est assez équilibré. Je dirais qu'il y a eu une évolution. Si on regarde l'évolution de l'équipe, aujourd'hui, je dirais que c'est assez équilibré entre les recherches, je dirais, fondamentales, spontanées, et les recherches qui sont, entre guillemets, plus ciblées, alors que c'est pas un ciblage directement. Le rôle d'un laboratoire de recherche n'est pas de
travailler pas sur le produit fini.
Voilà, on va pas travailler sur un produit fini. Ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à décoder dans un questionnement industriel, qui sont souvent des questions multiparamètres, donc assez complexes, c'est d'arriver à décoder quelles sont les vraies questions fondamentales. Et ça, c'est... Tous les chercheurs ne réussissent pas à le faire. Ça, c'est peut-être parce que finalement...
C'est un raisonnement à rebours de l'habitude.
Voilà, on n'a pas été éduqués à cela. Et donc ça, c'est un point important. Et il y a un autre point important qui est en train de changer, je le sens, de ces dernières années, c'est que les industriels avaient tendance quand même à financer un certain nombre de projets dans les laboratoires, pas du tout de façon directement intéressée sur le produit, mais plus intéressée sur la formation. En fait, de l'étudiant, du doctorant, la formation très large, justement, en sciences des matériaux et justement sur ces abordages hybrides, ça couvre des domaines très larges, autour peut-être d'un questionnement vers une propriété, mais il faut bien sûr en sortir. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que quand on recrute des jeunes qui ont cette formation-là, à la fois sur des aspects chimiques assez variés, sur des méthodes de caractérisation variées, et donc finalement, ça donne des gens qui ont finalement une grande souplesse dans la façon dont ils vont se confronter finalement aux problèmes futurs. Et donc ça a été très longtemps un petit peu la démarche des industriels, et en particulier des grands industriels français, vis-à-vis du laboratoire. Ça reste encore ce type de démarche pour certains, mais il est vrai que depuis, je dirais, les 10 dernières années, il y a quand même eu une transition vers une demande un petit peu plus spécifique. Et d'ailleurs, on le voit même dans les projets qui sont déposés pour récupérer en fait des moyens de financer la recherche. Il y a très souvent, on vous demande des milestones, on vous demande une certaine finalisation des choses. Et bon, je dirais que c'est de mon point de vue, c'est pas optimum.
Finalement, ce n'est pas optimum.
Non, ce n'est pas optimum, parce qu'en fait, très souvent, les choses les plus originales... Oui, ce qui est important, c'est de se positionner dans un questionnement avec un but. Mais très souvent, finalement, on trouve des choses beaucoup plus intéressantes sur le chemin. Et il faut arriver à se donner les degrés de liberté pour faire cette école buissonnière. Et ça, c'est très important, parce que très souvent, bon, c'est ce que disent un certain nombre de penseurs, c'est que finalement... Si on trouve des choses qui sont vraiment originales, finalement, on peut difficilement les concevoir totalement à l'avance. Et il est très difficile de faire une feuille de route. Et maintenant, bon, on est dans un monde, justement, qui est très calibré avec des feuilles de route.
Et donc, on ne peut plus prendre les chemins de traverse comme
auparavant. Voilà, on les prend quand même, hein, je vous rassure. On les prend quand même. On les prend quand même. Mais on n'est pas poussé vers cela.
Est-ce que dans ces contextes avec les industriels, dans le cadre justement d'un projet un petit peu plus précis, comment ça se passe-t-il ? Il y a un contrat qui est noué, un contrat
qui encadre en général, ce financement ? Oui, absolument. Mais bon, on a de très très bons rapports avec nos collègues industriels. En général, oui, c'est ça. Il y a un contrat autour d'une étude qui est nouée, soit un contrat doctoral, soit un contrat postdoctoral, qui permet donc justement, dont l'essentiel permet de financer le salaire, et ensuite il y a de l'accompagnement pour le laboratoire, et il y a du prix, il y a ensuite mise en commun de la propriété intellectuelle, prise en commun des brevets. En général, c'est comme ça que ça se passe.
Avez-vous la possibilité de nous parler de quelques réalisations faites dans ce type de cadre ?
Alors donc dans ce genre de... Bon, il y a des réalisations qui concernent par exemple des matériaux qui de grande surface qui peuvent être d'excellents photocatalyseurs dans, contre la pollution. Donc ça, il y a eu un certain nombre de développements là-dessus. Ces mêmes matériaux peuvent être également intéressants au niveau de photoélectrodes pour convertir finalement l'énergie solaire soit en électricité, soit en molécules, en énergie chimique. Il y a également des matériaux qui sont utilisés depuis un grand nombre d'années par L'Oréal, que nous avions développé il y a un peu plus de 10 ans. On avait en 98. Donc, vous voyez, ce sont tous les matériaux qui servent à réparer le cheveu, également, qui sont des matériaux hybrides. Il y a également
comment fonctionne-t-il ?
Ah, là je...
C'est trop compliqué à expliquer.
En fait,
ce sont
des matériaux qui permettent de cicatriser finalement le cheveu tout en conservant finalement sa plasticité, sa couleur. Ce sont des matériaux qui s'insèrent finalement dans les dégâts, en fait.
C'est de la micro-maçonnerie.
C'est de la micro-maçonnerie, mais justement, il faut des propriétés très spécifiques, puisque il faut à la fois que ça soit un ciment qui adhère bien, qui pénètre bien, et qui garde la plasticité, toutes
souple.
Les fonctionnalités. Voilà.
C'est fascinant.
Et c'est aussi un matériau qui permet de créer finalement. Mais ça, c'est vraiment une anecdote des coiffures volumorphoses. Vous voyez des selon, en fait, lorsque les quantités que l'on met, comment on agence finalement.
Mais selon le dosage, c'est plus ou moins rigide.
Exactement. Donc ça, c'est un exemple. Sinon, il y a eu des membranes qui ont été développées par une société dans le sud de la France pour traiter des effluents, pour faire de la dépollution. Et là, c'est justement un exemple dans lequel le matériau hybride est un matériau intermédiaire dans la construction. En fait, ça permet de contrôler finalement la structure hiérarchique de la membrane. Mais in fine, en fait, la partie organique est enlevée puisque ces membranes travaillent dans des conditions de température relativement élevées, de l'ordre de quelques centaines de degrés, 400 degrés, je crois, dans des milieux un petit peu difficiles. Et donc ça, c'est un autre exemple qui a été développé il y a une bonne quinzaine d'années maintenant par des industriels.
Je suis désolé, je vais à nouveau parler des peurs qui agitent parfois nos sociétés, ou du moins les traversent. Une de ces peurs se catalyse aujourd'hui sur les nanomatériaux, ou les nanoparticules.
Oui.
À bien des égards, nous sommes dans ce domaine-là, puisque vous travaillez sur l'association de molécules, une association inédite de molécules. Que pourriez-vous leur dire pour les rassurer ?
D'une part, c'est que je dirais que le discours sur les nanos, d'une façon générale, en fait, il n'est pas fait de façon pédagogique vis-à-vis du grand public, hein, parce que il y a des nanoparticules, il y a les nanomatériaux, il y a les matériaux nanostructurés. Et alors, dès qu'on voit le mot nano, on a l'impression que tout est la même chose, et ce n'est pas du tout la même chose au niveau des interactions. Typiquement, les gens pensent à de la toxicité. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que le nano, on est tous constitué d'énormément d'assemblages nanométriques, et les gens ne le réalisent pas tous les jours. Et il est évident qu'il faut un contrôle sur les choses. Il faut faire les choses de façon intelligente, mais personnellement, je suis contre un principe systématique de précaution, sans justement essayer de comprendre les choses et donner une certaine place aux scientifiques.
L'expérimentation par nature contraire à la précaution, mais
non mais on
mais
peut faire des expériences.
Non
mais c'est ce qui se fait déjà. Il y a des expériences de contrôle, de tests qui sont faites dans des conditions. On peut aujourd'hui avec des laboratoires, des hôtes, des systèmes très bien équipés pour cela, éviter les... On n'est pas dans la phase de production là, on est dans la phase de contrôle et de compréhension. Et donc cette phase là peut être très bien réglée avec une précaution maximum.
Et pouvez-vous nous donner quelques exemples d'objets usuels constitués de nanostructurés ou de nanomatériaux ?
Oui, dans l'automobile, il y a énormément de systèmes qui sont des composites, où il y a des composantes qui sont nanostructurées, ça c'est évident. Il y a beaucoup de... Dans les systèmes, je dirais pour le... tout ce qui touche à l'informatique, la micro-optique, la micro-électronique, il y a énormément de systèmes qui sont nanostructurés également dans ces systèmes-là. Bon, il y a du micro-structuré, mais il y a également du nanostructuré, puisqu'on va essayer d'obtenir des systèmes de plus en plus intégrés. Donc ça, ce sont les revêtements... c'est ce qui me vient à l'esprit de façon la plus évidente, je dirais. Mais bon, on pourrait, en réfléchissant un peu, on pourrait en trouver des dizaines et des dizaines.
Et vous pensez qu'ils sont appelés à se... Oui. À se généraliser en raison de leur...
Oui, oui, oui. Mais ce sont des systèmes qui sont nanostructurés, il y en aura de plus en plus, oui. Mais ils ne posent pas les mêmes problèmes que, en fait, des nanoparticules qui seraient relarguées par un pot d'échappement. C'est différent.
Bien entendu. Que diriez-vous, de façon plus globale, à ceux de nos auditeurs qui seraient victimes de ce désenchantement par rapport au progrès scientifique, pour être plus précis?
Ce que je dirais, c'est que, de toute façon, quelque part, le progrès, on ne peut pas... Ça fait partie de l'évolution, quelque part. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Mais par contre, ce qu'il faudrait arriver à garder tout en progressant, c'est justement d'essayer de travailler dans le sens d'une meilleure harmonie entre justement le monde qui nous entoure, le monde naturel et les avancées technologiques. Et je reviendrai sur ce qu'on a dit au départ, je pense que c'est un problème d'évaluation du temps. Je pense que le temps y est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'il faudra arriver justement à recadrer finalement les vraies valeurs du temps. Et on est dans une société qui un peu dérape à cause de cela, parce qu'on est dans des systèmes qui s'auto-accélèrent, et on sait très bien que finalement ces systèmes ont leurs limites. Et donc, je pense pas qu'il faut s'inquiéter finalement du progrès technologique, du progrès de la connaissance. Ça, je pense que c'est un moteur très très important, mais c'est plutôt l'utilisation du temps et la valeur du temps sur laquelle il faudrait réfléchir.
Oui, vous me disiez tout à l'heure que la vitesse n'est pas une valeur en soi.
Non, je pense pas, non.
Où se trouvent les vraies valeurs, alors?
Je pense que les vraies valeurs se trouvent, en fait, dans la qualité des relations entre les individus. On parle énormément de différentes formes d'intelligence, puis aussi l'intelligence du cœur, qui est très importante. Je pense que les vraies valeurs sont là, et que c'est celles-là qu'il faut travailler.
Travailler l'association entre les individus au sein de la société, comme vous pouvez les travailler au sein de...
Voilà. Mais bon,
vos travaux.
C'est beaucoup plus complexe, l'individu.
Merci beaucoup. Est-ce que pour revenir sur... pour conclure sur une note un petit peu moins philosophique, quels sont les travaux en cours qui seraient de nature à faire rêver un petit peu nos auditeurs et leur faire toucher du doigt les immenses potentialités, les immenses fonctionnalités qui pourraient être déduites de ces recherches.
L'exemple, je vais un petit peu peut-être me répéter, en fait, l'exemple que ce sont justement ces vecteurs thérapeutiques multifonctionnels qui, pour soigner en fait des maladies importantes, donc que l'on pourra, je dirais, injecter de façon totalement contrôlée, exactement à l'endroit où l'on veut, sans perdre, avec un ciblage parfait, positionner cette petite nano-navette spatiale, je dirais, cette nano-navette à l'endroit exact, ensuite imager ce que l'on veut traiter, avoir une image avec une résolution extraordinaire, relarguer le médicament ad hoc ou un mélange de médicaments à un moment donné, l'échauffer localement sans échauffer je dirais la périphérie de la tumeur dans des temps raisonnables. Donc on comprend tout de suite l'intérêt au niveau humain que ça peut apporter. Toutes les personnes qui ont eu dans leur famille des proches, en fait, qui ont souffert finalement d'un certain nombre de maladies graves, je pense qu'elles donneraient énormément, ne serait-ce que pour prolonger la vie de 2 ou 3 ans dans des bonnes conditions pour ces gens-là. Mais je pense que ces systèmes sont en train d'être développés et arriveront dans les prochaines années. Je suis optimiste. Hein. Un optimiste peut se tromper, mais c'est souvent lui qui a raison.
Merci de ces perspectives et de cette belle phrase de conclusion. Merci aussi à vous qui connaissez la valeur du temps, d'avoir pris le temps de nous visiter et faire partager votre passion pour ces recherches. Donc merci encore. Quant à nous, nous vous remercions de votre fidélité à notre écoute et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Merci, au revoir.
Thank you.